à bâton rompu.
À bâton rompu.
À bâton rompu, une émission proposée par Bruno Cyr.
Robert Bégoin, bonjour.
Bonjour.
Robert Bégoin, merci pour ce troisième entretien de venir encore éclairer nos auditeurs et moi-même, je dois dire, sur cette extraordinaire découverte qui a eu lieu sur la propriété de votre grand-père par les trois frères, dont votre père, et qui ont découvert trois grottes préhistoriques d'à peu près 17-18 000 ans, pas loin du Mas d'Azil, contemporain du Mas d'Azil, à peu près contemporain de Lascaux. Bien sûr, il y a Chauvet 20 000 ans avant ou 15 000 ans avant, mais on est dans une période où l'activité des hommes de Cro-Magnon, je crois que c'est bien ça, voilà, oui. C'est l'homme de Cro-Magnon, commence à être vraiment une activité en tout point comparable à la nôtre. Et donc je voudrais que on parle dans ce troisième entretien, au fond, est-ce que ces hommes étaient si proches que ça de nous ou pas? C'est la question qu'on peut se poser, parce que si on suit les théories de l'évolution, on pourrait se dire, ben, l'homme a évolué, donc au fond, l'homme d'aujourd'hui n'a rien à voir avec l'homme d'il y a 20 000 ans. Mais une autre vision peut-être, qui est, en vous écoutant, de dire, au fond, ils n'étaient pas si différents que nous. Évidemment, ils n'avaient pas les mêmes techniques, mais ils avaient un certain nombre d'approches de la vie qui étaient tout à fait comparables, et notamment dans le domaine de l'art, et on peut le voir lorsqu'on va à Lascaux, on peut le voir lorsqu'on va à Chauvet, les œuvres d'art, et lorsqu'on va dans les grottes des Trois Frères et la grotte du Volpe, on peut constater qu'au fond, les œuvres d'art qu'ils ont produites sont exactement en tout point comparables, et on pourrait presque croire qu'elles ont été faites aujourd'hui, d'ailleurs certains l'ont cru à l'époque, sont en tout point comparables. Donc ils avaient une sensibilité à l'art extraordinaire. Je voudrais que vous nous racontiez un peu ça. Quelles sont les œuvres majeures d'abord que vous avez découvertes, vous?
D'abord, je vais revenir sur l'homme de Cro-Magnon, qui est le dernier chaînon.
Oui.
Voilà, nous sommes des hommes de Cro-Magnon.
Peut-être pas le dernier.
Peut-être pas le dernier, absolument.
Rien le dernier connu.
Rien n'indique le dernier connu. Non, c'est déjà ça. Donc, tout ce que va faire cet homme va nous être finalement proche. On a quand même là un plus petit commun dénominateur, si vous voulez. Mais bien sûr, c'est l'écriture.
Les premiers Cro-Magnon remontent à quand, à peu près?
Les premiers Cro-Magnon, c'est un peu en Europe, parce que c'est pas.
Ouais.
En Europe, c'est 45 000 ans.
45 000 ans.
Voilà, mais dès qu'ils arrivent...
Chauvet, c'est déjà Cro-Magnon.
Voilà, c'est des Aurignaciens.
Ouais.
Donc dès qu'ils arrivent, ils apportent avec eux l'intelligence, enfin une intelligence beaucoup plus affûtée, et l'invention de l'image qui va être fulgurante. D'ailleurs, on croyait, mais ça je crois l'avoir déjà un petit peu raconté, on croyait qu'il y avait une évolution dans l'art de l'image, de faire des images. Ouais. Et avec la découverte de la grotte Chauvet, on s'aperçoit que dès que Cro-Magnon arrive, il est capable des plus grandes fulgurances
artistiques. Oui, ce qui amène à dire que tout n'est pas relatif. Parce qu'en réalité, on voit qu'il y a là une permanence, il y a un beau qui reste beau, quelles que soient les périodes, quelles que soient les générations. Chauvet, 30 000 ans, vous, 17 ou 18 000 ans, Lascaux, 20 000 ans. Donc, tout ça, c'est quand même très, très vieux. Et puis, on peut prendre des jalons avec les Égyptiens. Et on se rend compte qu'il y a une permanence du beau.
Oui.
Il y a une vérité absolue.
Malgré leur vie aventureuse extrêmement difficile qu'ils devaient avoir, ils gardent une petite fleur bleue dans le coin de leur esprit et créent des choses qu'on appelle de l'art.
Ouais.
Même si pour eux, le mot n'existait sans doute pas, mais ils devaient aimer le beau, la chose bien faite. D'abord, ça part par le silex, qui est souvent... La symétrie est très très ancienne, 800 000 ans peut-être.
Ouais.
C'est l'attrait du beau est universel chez l'homme.
Est universel et intemporel.
Et intemporel.
on peut peut-être y voir, mais ça c'est une marotte personnelle, un signe de Dieu. Ça reste voilà, entre nous.
Ça reste entre nous.
Mais je crois que...
Oui, je le crois aussi. C'est ce
on,
dis,
on est dans une période où un certain nombre de philosophes ont tendance à dire que tout est relatif, que le beau est relatif, que ce qui est beau aujourd'hui ne l'était pas hier, etc. Et en réalité, ce n'est pas vrai. Le beau n'est pas relatif, beau est absolu.
Il y a une permanence, oui.
Il y a une permanence. Et donc, parlez-nous un peu des fameux bisons d'argile qui sont
Ces fameux bisons d'argile se situent dans le fin fond d'une grotte, à 650 mètres de l'entrée. 650 mètres d'une entrée et d'une grotte qui est profonde et très difficile d'accès. Dans ces 650 mètres, il y a d'abord deux étages, le rez-de-chaussée et le premier étage, si vous voulez. Et entre les deux, il y a une cheminée de 10 mètres que les Magdaléniens grimpaient comme ils pouvaient. Nous, on a mis maintenant une échelle. Mais ensuite, il y a cette échelle, il y a de nouveaux boyaux. Des gouffres, il faut marcher à quatre pattes, grimper des aspérités rocheuses, etc., etc. Enfin bref, c'est toute une
gymnastique. Oui, c'est pas un chemin tranquille.
C'est,
ouais.
Voilà, c'est vraiment un chemin d'initiation, si vous voulez, presque, pour arriver jusqu'au bout. Et il y a aussi des grandes salles avec de l'argile sur lesquelles ils ont laissé des traces de leur passage. Ce qui fait que l'ensemble des traces a été étudié avec Gilles Tozzello, Jean-Claude, etc. On a décidé que peut-être il y avait eu deux passages seulement.
Seulement deux
passages pendant la préhistoire. Le premier pour explorer la grotte, qui est terriblement... Là, je parle au moins du niveau supérieur.
Ouais.
Deux passages au niveau supérieur. Qui est, parce que bah, les empreintes ne sont pas si nombreuses. Il y a 200 empreintes de pas et tout ça, mais ce n'est pas beaucoup quand on est 3 ou 4. Ouais. On les fait rapidement. Et ils ont vaincu toutes ces difficultés. Nous les suivons pas à pas dans la grotte. Ils ont quelquefois posé un crâne d'ours sur un rocher. Ils ont ou un os. Ils ont mis un silex dans une petite interstice de la roche. Il y a des quantités d'indices comme ça.
Dans le noir absolu.
Dans le noir, mais enfin ils étaient aidés de lampes.
Oui, avec des lampes.
De lampes. Tout ça fait que la fréquence est vraiment, on la sent. Ouais. On les suit à la trace. Et puis tout à fait au bout, alors là c'est quelque chose, c'est l'improbable qui se produit, c'est cette sculpture totalement réaliste, magnifique. Qui consiste à être deux bisons, un mâle et une femelle, la femelle est sexuée, et le mâle a sa bosse, enfin on reconnaît très bien le mâle et la femelle, nulle blessure, ni flèche ne les blesse, c'est vraiment
ils sont vivants.
La notion de reproduction qui a voulu être traitée là. Et d'ailleurs, il y a deux petits à côté qui sont moins bien traités, qui sont des petites ébauches dans le sol.
Et donc ces bisons sont au fond de la dernière cavité, à 600 mètres sous terre.
Alors, ils se sont conservés, c'est un miracle de la conservation s'ils se sont conservés, parce qu'à cet endroit-là, miraculeusement, géologiquement, il y a quelques mètres extrêmement compacts d'argile ou de matériel, vraiment de matériaux totalement étanches. Ce qui fait que depuis 17 000 ans, pas une goutte d'eau n'est tombée sur les bisons d'argile. Et nous supposons qu'il y en a eu d'autres, non seulement dans la grotte, mais peut-être très certainement dans d'autres grottes.
Et qui auraient fondu.
Qui auraient fondu en quelques millénaires, ou même quelques mois, ou quelques années, parce qu'il y a dans les grottes, il y a de l'eau partout.
C'est très humide.
Et
ouais.
Notamment au Tuc de Doubert. 10 mètres avant ou 10 mètres après, ils n'auraient pas survécu. Oui, c'est un
donc,
vrai miracle.
Il y a ces bisons qui sont effectivement saisissants, dont il y a des moulages au Musée de l'Homme, je crois.
Des copies. Oh là là.
Ah oui, pas des moulages.
Non, des copies.
Ils n'ont pas été touchés, donc ce sont des copies.
Voilà.
On peut se rendre compte, si on va au Musée de l'Homme voir les copies, que ce sont des œuvres d'art absolument extraordinaires.
Oui, absolument.
Extraordinaires.
On voit encore les empreintes digitales. Ils ont pris de l'eau pour lisser le corps.
Ouais.
Et sur le dos et tout ça, on voit les empreintes digitales des Magdaléniens. Vous voyez, c'est la précision. 17 000 ans. Ouais. Il y aura peut-être des études qui seront possibles. C'est peut-être bientôt. Peut-être...
Vous les avez regardées jamais touchées.
On ne les a jamais touchées.
Ouais.
Il y a un jour un ministre de la Culture, dont je tairai le nom, qui m'a dit « Mais monsieur Bégoin, ils sont durs ou ils sont mous ?» Alors je dis « Monsieur le ministre, jamais personne ne les a jamais
posé le doigt dessus.
Ils sont probablement un petit peu durs quand même, en 12 ans, 17 000 ans, mais enfin, voilà.
C'est extraordinaire.
Une idée saugrenue.
Et il y a, si on me laisse une minute de plus, il y a d'autres représentations extraordinaires. On y reviendra peut-être dans la séquence suivante, mais notamment, il y a une représentation musicale. Ça veut dire qu'il maîtrisait à la fois l'image, mais aussi le son, puisqu'il y a un endroit où on voit un bison gravé. C'est un corps d'homme, le haut, c'est un tronc de bison, et du museau du bison.
Une flûte nasale.
Il y a une flûte nasale.
Oui.
Alors, racontez-nous. Alors,
on a trouvé dans certaines grottes, pas chez nous, hélas. On a trouvé des instruments de musique. Et là, on l'appelle le petit sorcier. Il est célèbre, il fait partie de tous les livres d'histoire de la musique. Et un jour, j'ai eu une visite d'un musicien japonais qui était spécialiste des musiques anciennes et qui avait dit à Paris, au ministère, « J'ai qu'un rêve en France, c'est de voir le petit sorcier des trois frères. » Alors, je les ai amenés. Ça a été une expérience de ma vie extraordinaire. Il faut un quart d'heure pour bien le discerner, pour bien le voir. Et en sortant, il était tout ému, il pleut, il avait des larmes aux yeux. Et quand il est ressorti dans la salle du sanctuaire, il m'a dit, Monsieur Bégoud, il a dit à son interprète, dites à Monsieur le Comte Bégoud, il m'appelait comme ça, j'ai amené une petite flûte nasale
fabriquée
par lui ou par
au Japon.
Qui, voilà. Et est-ce que je sais en jouer? Est-ce que je peux en jouer dans ces lieux? Alors, j'étais enthousiasmé, je dis bien sûr que oui. Et alors il a fait dire aussi, et j'ai amené un petit magnétoscope de très haute qualité, est-ce que je peux l'enregistrer? J'ai encore dit oui. Et alors j'ai demandé à tout le monde d'éteindre les lampes, et dans le noir, ce monsieur merveilleux, un peu âgé, a joué une mélopée, on se serait cru devenu magdalénien. Vraiment,
le temps s'est effacé.
Ça résonnait dans les voûtes, c'était absolument magique, c'est un souvenir inoubliable, absolument inoubliable.
Voilà comment, il y a 17 000 ans, nos ancêtres maîtrisaient déjà à la fois la représentation graphique et la musique.
Ils maîtrisaient beaucoup de choses.
De Dieu pour moi, mais on y reviendra dans notre prochain entretien. Merci, Monsieur Bégoud.
Merci.